Vous écoutez France Culture.
Et bonjour à tous. Emmanuel Macron est sorti hier de la trappe sur la scène de l'affaire Benalla ou descendu des cintres tel un Deus ex machina pour affronter la tempête avec Sophie Delpont. Nous reviendrons sur ce coup de théâtre. Le politologue Jean Garrigue sera également en direct avec nous. Les chiffres du chômage, stables pour le second trimestre, Catherine Pétillon achève en ce moment de les décortiquer. À l'étranger, des élections législatives au Pakistan qui ont débuté dans le sang, nous dira Valérie Crova. Et puis au menu de la grande table d'été, Mélisse.
Aujourd'hui, on va parler de la série Orange is the New Black qui sort sa sixième saison. Et nous ferons le portrait du grand réalisateur philippin, Lav Diaz.
On se retrouve à 12h45. Mais avant de développer ces titres, il nous faut retourner en Grèce. En Grèce où le bilan des incendies à l'est d'Athènes est passé ces dernières heures à 79, c'est-à-dire au-delà du nombre de victimes enregistrées en 2007. Bilan d'ores et déjà terrible, bien sûr, mais qui n'est que très provisoire. Sur place, à Matine, nous retrouvons Angélique Kourounis.
Pour les Grecs, c'est un véritable choc psychologique. Jamais ils n'auraient pensé hier matin que le bilan de 77 morts des terribles incendies de 2007, qui avaient duré plus de 3 semaines, serait dépassé. Les secours eux-mêmes n'y croyaient pas, mais plus la liste des disparus s'allonge, plus cette probabilité se confirme. Ce bilan annoncé aujourd'hui par les pompiers reste malheureusement provisoire, car il y a encore des dizaines et des dizaines de disparus, probablement tous morts, selon les sauveteurs. Des sauveteurs qui, dès la première lueur du jour, ont recommencé leur recherche macabre, sous les cendres, dans les maisons carbonisées de Mati et au Petit Port, où déjà beaucoup de victimes ont été retrouvées, mais aussi le long des côtes, où les gens ont chercher refuge sans le trouver, comme cet enfant qui s'est jeté à la mer, poursuivi par les flammes, mais qui s'est fracassé sur les rochers. Peu à peu, la colère et la rage succèdent à la douleur. Pourquoi le gouvernement ne publie pas la liste exacte des disparus? Pourquoi aucun chiffre officiel n'est établi, puisque les familles ont donné aux sauveteurs et à la Croix-Rouge le nom de ceux et celles qui manquent à l'appel? C'est d'autant plus incompréhensible que sur les réseaux sociaux, ces listes existent déjà avec des photos. Elles sont relayées sur tous les sites, mais c'est une initiative privée. Pour l'instant, sur ce dossier, le gouvernement et l'État sont absents. Ils donnent, eux, la priorité à faire redémarrer les régions sinistrées, dégager les carcasses de voitures calcinées, remettre en état les réseaux d'électricité et d'eau, et des ingénieurs font le relevé topographique pour les dossiers d'indemnisation. C'est déjà bien, mais selon les sinistrés, cela ne suffit absolument pas.
Angélique Kourounis pour ces incendies en Grèce, dont le bilan s'élève désormais à 79 victimes. Il est sorti du bois hier soir, alors qu'il devait réapparaître aujourd'hui. Emmanuel Macron a fait une entrée plutôt fracassante sur la scène politico-médiatique. Le rideau s'est ouvert sur un deuxième acte qui a vu surgir littéralement sur le devant de la scène le personnage principal de la pièce, le président de la République. Celui dont tout le monde parle et dont tout le monde demande qu'il s'exprime. Eh bien, les uns et les autres ont été servis via ses propos soigneusement filmés et diffusés. Sophie Delpont, bonjour.
Bonjour.
Vous nous faites revivre cet épisode forcément inédit.
Emmanuel Macron, acclamé par les députés de la majorité, le seul responsable, c'est moi, répète le président de la République hier soir, qui déclare qu'il était au courant de l'affaire. Il assume la sanction dessinée envers Alexandre Benalla devant un auditoire conquis d'avance. Il dit refuser de se cacher après pourtant des jours de mutisme.
Ça n'est pas la République de la haine, celle où on fait trinquer un fonctionnaire ici, un collaborateur là. On ne peut pas être chef par beau temps et vouloir s'y soustraire lorsque le temps est difficile. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Et ce responsable, il répond au peuple français et au peuple souverain.
Voilà, qu'ils viennent le chercher, une déclaration qui rappelle les accents de Nicolas Sarkozy. Dans son camp seulement, il s'est adressé hier face à des personnes dont il demande le soutien inconditionnel, alors que les critiques émanant de cette affaire Benalla portaient notamment sur l'entre-soi et la logique de clan régnant dans son entourage. Emmanuel Macron assume de ne rendre de compte ni aux médias ni aux parlementaires de l'opposition. Il se revendique au-dessus de la mêlée, alors qu'il accuse au passage la presse et les parlementaires de vouloir dépasser, eux, leur pouvoir respectifs en se substituant à la justice. Usant même d'ironie, il en a profité pour faire rire son auditoire en déclarant qu'Alexandre Benalla n'a jamais détenu les codes nucléaires et qu'il n'a jamais été son amant.
Évidemment, Sophie, cette sortie présidentielle a suscité une vague de réactions indignées de l'opposition, à la fois sur le fond et la forme.
Oui, à droite et à gauche, on dénonce une arrogance, une attitude puérile même du chef de l'État qui s'est offert un cadre sur mesure. Valérie Rabault, la chef du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, demande maintenant an que le président de la République soit auditionné par l'Assemblée. C'est un bras d'honneur vis-à-vis de l'opposition quand il dit qu'ils viennent me chercher, un bras d'honneur vis-à-vis des journalistes, de la presse et des Français, a lancé de son côté Bruno Retailleau, le chef de file des sénateurs Les Républicains. Même expression dans la bouche du député de la France Insoumise Alexis Corbière, qui a répondu lui hier soir chiche au chef de l'État.
Merci Sophie Delpont. Autre réaction qu'on peut ajouter ces dernières heures, celle de Nicolas Dupont-Aignan qui a claqué la porte de la commission d'enquête parlementaire, commission qu'il qualifie de mascarade désormais après la prestation du président de la République. Dans un scandale, je cite encore Nicolas Dupont-Aignan, illustrant toutes les dérives, dit-il, d'un pouvoir irresponsable et mégalomaniaque. Nous sommes maintenant en ligne avec Jean Garrigue. Bonjour, vous êtes professeur à Sciences Po, Paris et Orléans et historien. Hier soir, Emmanuel Macron a voulu donner une image d'autorité, de solidité devant ses troupes, un peu l'image d'un commandant de navire affrontant seul la tempête. Avez-vous été surpris par cette séquence de revendication à la fois de sa responsabilité mais aussi de son pouvoir ?
Oui, ça me paraît quand même quelque chose d'un petit peu étonnant même. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est presque contradictoire parce que d'un côté, il assume une responsabilité et il est dans son rôle là de président de la République et il assume qu'il y a eu des erreurs donc et qu'il faille expliquer ces erreurs, voire les justifier, peut-être même s'auto-confesser. Mais il y a aussi cette forme de provocation à l'égard des contre-pouvoirs, et notamment du contre-pouvoir médiatique, qui me semble-t-il est quand même une maladresse et qui est contradictoire, je le répète, par rapport au fait d'assumer une responsabilité. Si on assume une responsabilité, alors on n'est pas dans la provocation, on est dans l'explication et dans le débat.
Alors est-ce que cela signifie, Jean Garrigue, que selon vous, Emmanuel Macron doit s'expliquer devant les Français ?
Oui, pour moi, il doit s'expliquer. Le discours qu'il a tenu devant les députés de la République en marche n'est pas suffisant. C'est une forme d'explication indirecte et qui donne lieu justement à de nouvelles polémiques. Donc il doit s'expliquer. Il doit expliquer très clairement ce qui a dysfonctionné dans la chaîne de commandement à la fois à l'Élysée et à la fois dans l'administration de la police. Et c'est très important parce que le besoin de transparence démocratique aujourd'hui est tel qu'on ne peut plus se contenter d'un président qui se replie sur sa dimension d'autorité, de force. Non, il faut un président qui aussi explique aux Français tout ce qu'il fait.
Vous qui êtes historien, Jean Garrigue, que pensez-vous du fait que Emmanuel Macron mette quelque sorte dans le même panier les médias, le système judiciaire, le Parlement ? Est-ce que ça ne rappelle pas de mauvais souvenirs, vous qui notamment avez travaillé sur le boulangisme ?
Oui, alors là, non, je ne peux vraiment pas aller jusque-là parce que la situation est très différente. Il y a une tentation d'Emmanuel Macron d'exercer une présidence d'autorité, de solennité, voire de distance, mais qui s'apparente beaucoup plus finalement à la tradition gaullienne. Et d'ailleurs, c'était très clair d'emblée au début de sa présidence. Donc on est assez loin du général Boulanger qui était un populiste et dont le parcours politique s'apparenterait plus à ceux des dirigeants du Front National aujourd'hui. Simplement, on voit bien que, au fond, le nouveau monde d'Emmanuel Macron ne se situait pas sur le terrain où on l'a cru. C'est-à-dire, on pensait que dans les pratiques présidentielles, là aussi, il y aurait de l'innovation, et en tout cas, un besoin de transparence démocratique. On s'aperçoit qu'il était plutôt l'héritier de la forme de gouvernance gaullienne. Il lui appartient de montrer qu'il n'est pas simplement l'héritier de cette présidence d'autorité gaullienne, mais qu'il est aussi un président du 21e siècle, c'est-à-dire qu'il s'adapte aux contraintes de la transparence démocratique.
Oui, Jean Garrigue, avant de poursuivre cet entretien, je vous propose de réécouter maintenant le sénateur LR Philippe Bas, président de la commission sénatoriale d'enquête sur l'affaire Benalla et fin connaisseur des mécanismes du palais pour avoir été secrétaire général de l'Élysée sous Jacques Chirac entre 2002 et 2005. Voilà comment ce matin, sur Europe 1, Philippe Bas a qualifié la prestation présidentielle.
Il y a quelque chose de presque puéril dans cette posture. Ça n'est pas du tout à la hauteur de ce que nous attendons. Nous respectons la Constitution. Le président de la République est responsable devant le peuple français. Il n'est pas responsable devant le Parlement. Alors, vous voyez, la posture qui consiste à laisser entendre qu'on pourrait venir le chercher au fond de son bureau pour l'écouter, n'a strictement rien à faire avec le sérieux avec lequel il convient de traiter les difficultés qui sont apparues, qui sont celles de... J'appelle ça l'hégémonisme présidentiel. Oui, on est dans un régime où le président de la République donne l'impulsion, mais il n'accapare pas tous les pouvoirs.
Dans la prestation puérile, selon Philippe Bas, vous venez de l'entendre, Jean Garrigue, je reviens à vous. Est-ce que vous partagez cette appréciation ?
Elle peut être interprétée comme une forme de proclamation virile, un tout petit peu simpliste. Ça peut être aussi un signal qu'il donne à une partie de son électorat, de sa fermeté, de cette présidence d'autorité dont je parlais tout à l'heure. Mais je pense que ce serait une erreur, c'est une erreur de sa part, et que, je le répète, à cette dimension d'autorité, qui est importante, je ne veux pas la négliger, et qui est un des facteurs de son succès et de la phase initiale d'état de grâce qui l'a accompagné, eh bien, ça n'est pas suffisant. Il faut aussi, je le répète, qu'il s'adapte à ce qu'est l'exigence de transparence démocratique. Ça passe par le libre exercice des contre-pouvoirs. En ce qui concerne les contre-pouvoirs, je dirais que ce qui se passe avec la commission des lois transformée en commission d'enquête, est une bonne chose, va dans le bon sens de ce rééquilibrage des contre-pouvoirs.
Merci beaucoup Jean Garrigue d'avoir été en direct avec nous dans ce journal. Je rappelle que vous êtes prof à Sciences Po Paris et historien.
Il est 12h41, suite du journal d'Ezekiel Fernandez.
Il y a une demi-heure, le gouvernement a rendu public les chiffres du chômage pour le deuxième trimestre de cette année 2018. Au premier trimestre, rappelons-le, le nombre de chômeurs avait baissé, petitement, si on peut dire, 0,9%. Mais le nombre de demandeurs d'emploi exerçant une activité avait augmenté d'1,5%. Cette fois-ci, la variation est tout aussi légère, mais repart plutôt à la hausse. Alors que nous apprennent ces nouveaux chiffres, Catherine Pétillon ?
Et que globalement, le chômage ne parvient pas vraiment à baisser. Les créations d'emplois ne permettent pour l'instant que de stabiliser les chiffres. Cette dernière livraison montre une variation minime. Ce trimestre, la tendance est légèrement à la hausse. La catégorie A, celle qui comptabilise ceux qui n'ont pas du tout travaillé, augmente de 0,1%. Il y avait fin juin 3,4 millions d'inscrits dans cette catégorie. Cela représente 4 600 personnes de plus. C'est donc assez marginal comme différence. Notons que ce chiffre monte à 1,9% pour les moins de 25 ans. Les jeunes subissent là notamment la baisse des emplois aidés. Si l'on regarde toutes catégories confondues, c'est-à-dire en incluant ceux qui ont une activité réduite, le nombre de demandeurs d'emploi augmente cette fois de 0,2% ce trimestre, plus 1,5% sur un an. Alors ces nouveaux chiffres paraissent, alors que la convention UNEDIC doit être renégociée à la rentrée et que l'exécutif souhaite réformer Pôle emploi. Il insiste depuis des semaines sur sa volonté d'indexer le nombre d'agents Pôle emploi sur les chiffres du chômage, concrètement de diminuer le nombre d'agents en fonction de la baisse du chômage, mais cette dernière n'est pas encore là.
Merci Catherine Pétillon pour cette première analyse concernant les chiffres du chômage du premier, du second trimestre, du deuxième trimestre 2018. L'actualité à l'étranger dominée aujourd'hui par cette journée d'élection législative au Pakistan. 106 millions d'électeurs appelés à désigner leurs députés pour une durée de 5 ans. Un scrutin qui s'annonce plutôt serré, c'est ce que tout le monde dit en tout cas, entre l'ex-champion de cricket Imran Khan et Shahbaz Sharif, le chef de le frère de l'ancien premier ministre Nawaz Sharif, homme fort évidemment au Pakistan. Un jour de scrutin, il faut bien le dire, Valérie Krovac, qui a démarré dans le sang.
Oui, un attentat qui a fait au moins 30 morts près d'un bureau de vote de la ville de Quetta. Il a été revendiqué par l'État islamique qui a lancé plusieurs attaques pendant la campagne électorale, notamment dans cette province du Baloutchistan où s'est produit l'attentat suicide de ce matin. C'est une province très pauvre où les mouvements extrémistes, y compris les talibans, n'ont pas de difficulté à recruter. Alors, pour en revenir au scrutin lui-même, deux partis font la course en tête. La Ligue musulmane pakistanaise du gouvernement sortant, un parti dirigé par Shahbaz Sharif. Il met en avant son bilan économique, la construction d'infrastructures, notamment de routes et de centrales électriques, la baisse de l'insécurité dans le pays, ce qui est une réalité malgré les récents attentats. Il y a face à lui le parti de l'ancien champion de cricket, Imran Khan, très populaire au Pakistan. Les derniers sondages le donnent légèrement en tête des intentions de vote. Son programme met l'accent sur la création d'un État providence islamique et la lutte contre la corruption. Il promet également d'investir dans la santé et l'éducation, ce qui rencontre un écho chez les jeunes. Près de la moitié du corps électoral au Pakistan a moins de 35 ans.
Et donc les premiers résultats, Valérie, sont attendus dans la soirée. Le mercure à la hausse cet après-midi, entre 30 et 34 degrés sur les trois quarts du pays. Dégradation orageuse prévue sur les reliefs. 9 départements, rappelons-le, de l'Île-de-France et du Nord sont placés toujours en vigilance orange canicule. C'est la fin de ce journal préparé avec Yacine Bouzard. Prochain rendez-vous avec l'actualité à 18h.